Depuis l'entrée en vigueur de la loi qui autorisait le mariage homosexuel, le maire du Carbet en célébrait deux par mois devant certains parents mécontents. Heureusement, l'amour qu'ils portaient à leur progéniture atténuait la désapprobation. Mariage homosexuel ou hétérosexuel, tous ces couples avaient le droit de jouir des belles déclarations enflammées de Monsieur le maire. Pour sûr, les Carbétiens appréciaient le dévouement de l'élu sans affaire de moralité religieuse. Cependant, ses camarades du groupe de prière du dimanche n'appréciaient pas sa largesse d'esprit, surtout Madame Adélaïde, qui prêchait que l'homosexualité était un péché mortel, alors que tout le monde savait qu'elle aimait lécher les pieds de Suzette, une des nombreuses choristes de l'église. Cependant, personne n'osait y faire allusion. Sinon, qui s'occuperait du catéchisme, de l'entretien de la paroisse, de la comptabilité, des kermesses et j'en passe. Ni même Rémilien, le frère de Monsieur le maire, récemment converti à un courant de la spiritualité kamite, ne tolérait cette orientation. L'homosexualité, le fléau du blanc, Henri. À l'époque de nos glorieux ancêtres en Égypte, Paténissa. Il fallait le voir essayer de déchiffrer les hiéroglyphes et dévorer des encyclopédies sur cette grande période historique, alors qu'il ne savait strictement rien de l'histoire de son île, ni même écrire et lire correctement le créole. Pour sûr, cela amusait Monsieur le maire. Heureusement, l'élu s'en foutait pas mal. Quel que soit l'amour devant lui, il se devait de le célébrer avec joie et allégresse. Une célébration qui l'avait particulièrement marquée était celle de Manquenette et de Madame Rouge. Manquenette était une petite vieille dame de 85 ans, au dos courbé, qui s'unissait à une jeune femme dont l'odeur annonçait le dérangement. Oui, le dérangement dans le pantalon de Monsieur le maire. Son coco aurait pu lui déchirer son beau pantalon bleu marine, repassé avec tendresse par son épouse. Péloponnèse Rouge avait une peau claire qui rehaussait le rose bonbon de sa pulpeuse bouche. Sa longue robe rouge enflammait ses yeux noirs ainsi que ses larges hanches. Elle dégageait le vice, la luxure et la gourmandise, comme un bonbon. Le couple ne passait pas inaperçu, en effet. Monsieur le maire célébra le mariage hébété devant Madame Rouge. Pendant qu'il débitait tout son flot de paroles, il se demandait pourquoi cette belle femme à la beauté diabolique épousait Manquenette. Oh, Black était là! La vieillesse avait déjà rongé la vue de Prune Kenette. Elle était déjà incontinente, portant une couche XXL en promotion du comptoir médical de Monsieur Lézin. La vieille dame sentait la pisse à plein nez. Mais rien ne pouvait altérer le doux regard que posait Péloponnèse sur sa compagne. Sans aucun doute que l'élu était face à un amour qui rigolait des macaqueries de la vieillesse. Prune et Péloponnèse se marièrent avec simplicité devant leurs deux témoins, les fils de Manquenette. Monsieur le maire pouvait sentir les frères dégouliner de sueur et de bave devant leur belle-mère. Mais chacun se retenait pour le bonheur de leur mère. Quelle drôle de famille! De ses 30 années à la mairie du Carbet, Henri Éloi garda de nombreux souvenirs. Malgré son Alzheimer qui lui jouait des tours, il se souvenait du mariage de Manquenette tout en confondant le prénom de ses propres enfants. Certains jours, il pouvait oublier qu'il était un homme. Henri pouvait se mouvoir en imitant un poisson dans un bocal ou sauter comme un kangourou. À bout de force, ses enfants le laissaient vagabonder dans le quartier car il ne pouvait pas rester enfermé chez lui. Par précaution, il habillait leur père tout de blanc en ayant pris le soin de coudre leur numéro de téléphone dans les poches. Les Carbétiens avaient l'habitude de le voir déambuler dans les rues en sautant ou en essayant de voler, mais en vain. Tant qu'il n'emmerdait pas les passants, on ne prenait pas la peine d'alerter ses enfants. Cependant, on le gardait à l'œil en cas d'accident. C'était la moindre des choses pour un des meilleurs maires de la commune. Un jour comme les autres, l'ancien maire galopait dans le cimetière. Aujourd'hui, il était en cheval trois pattes. Clac, 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 clac! Tout content, il longeait les tombes en lâchant des hennissements. Cependant, il s'évertua à ne jamais déposer à terre son pied gauche. Subitement, il arrêta sa course. Le vieil homme reconnut Madame Péloponnèse Rouge, la femme qui avait troublé certaines de ses nuits. Elle était debout en tailleur rouge devant la tombe de sa défunte épouse. Drôle d'habit en ce jour bien ensoleillé. Pourtant, elle ne semblait pas mourir de chaud, ni même transpirer, non. Péloponnèse était sereine, caressant tendrement les carreaux immaculés du caveau. « Que je suis content de vous voir, Madame Rouge !» s'exclama le vieil homme. « Il m'est arrivé de penser à vous, surtout à votre parfum. Un bonbon de caramel, oui !»« Bien le bonjour, Monsieur le maire. Comment allez-vous ? À ce que je vois, vous êtes cheval trois pattes aujourd'hui. » Et avec un peu de chance, demain je serai Niguane, répondit-il en ricanant de sa propre personne. Cela fit sourire la belle femme en rouge. Elle vous manque, n'est-ce pas? Oh oui, tous les jours, foutre que j'ai aimé ma prune. Je ne veux pas paraître blip, madame, mais j'aimerais connaître votre histoire.
Mon histoire?
Oui, votre histoire. Comment une femme comme vous a pu épouser une vieille dame comme Manquinette?
L'amour n'a pas d'âge et ne fait pas de manière. Mais votre union fut quand même surprenante, n'est-ce pas?
Oui, en effet, je le concède. Puisque j'ai un peu de temps, je veux bien vous raconter mon histoire.
Péloponnèse invita le vieil homme à venir s'asseoir sous la tombe de Manquinette afin de lui conter sa longue vie de diablesse.
Je suis née un soir de pleine lune sous un quenetier. Le maître de l'habitation m'avait râlé derrière le pied pour abuser de mon innocence de jeune esclave. Pourtant, j'étais sa bâtarde de fille qu'il avait eue avec sa cuisinière. Cette nuit-là, je l'avais tellement maudit, ainsi que tous les hommes, que je me suis transformée en une diablesse. Apparemment, ma complainte avait été entendue par un esprit sanguinaire qui passait dans les environs. D'ailleurs, j'ai planté mes dents acérées dans le cou de mon père. Je lui en avais même arraché un bon morceau. Il en mourut, étouffé dans sa propre honte. Bien que le sang paternel m'ait répugné, je me délectais volontiers de celui de la gent masculine. Plus ils étaient pauvres, plus ils avaient un goût sucré. Ils avaient beau essayer de me contrer en fumant une cigarette ou en mettant leurs vêtements à l'envers, rien ne pouvait me résister. Je les aguichais en étant la femme de tous leurs fantasmes. Ils raffolaient de la femme à la peau claire, presque aussi blanche que celle de la maîtresse de l'habitation. Je leur murmurais des mots doux tout en caressant leur pénis. Je léchais leurs tétons pour mieux les arracher par la suite. Avec le temps, je fus nommée la diablesse du Nord. Une belle époque où je n'avais pas encore une jambe qui se transformait en pied de bouc à partir de minuit. Une punition que m'a infligée Mariamet, cette saloperie de divinité hindoue. J'ai parcouru l'île en quête de sang frais, malgré cet inconvénient. J'avais une préférence cette fois-ci pour les alcooliques. Le petit arrière-goût de rhum blanc me réchauffait la gorge. De toute façon, les hommes étaient trop préoccupés par la rondeur de mes seins ou par la profondeur de ma gorge pour s'en soucier. Je me rappellerai toujours d'Ivan, un des rares qui avait léché avec avidité mon pied de bouc. Bon Dieu, oh là là. Faut aussi que je te raconte ma rencontre avec la Vierge Marie en personne. Oui, en personne. Fiche que nous avons bien rigolé en bambochant lors du carnaval de Saint-Pierre. Dommage que tu n'aies pas connu cette belle ville avant les imbécilités de Monsieur Pelé. Maintenant, cela n'a plus d'importance. Pendant un certain temps, je n'avais plus besoin d'écumer les bars, les soirées, les fêtes d'anniversaire ou encore les mariages à la recherche de nourriture. Cette liberté était un merveilleux cadeau de la Vierge Marie. Elle m'avait offert des graines mystiques qui étouffaient drastiquement ma faim. N'empêche, mon pâté sawa jolly. Mais je n'étais plus obligée d'écouter les regrets ou la douleur de ces hommes en mal de confiance. Certains tachaient ma belle robe rouge en pleurant ou en implorant un dieu qui avait mieux à faire que de les écouter. Plus ils étaient foncés de peau, plus Dieu les toisait. Je pouvais enfin me reposer, profiter de ce que l'île pouvait m'offrir. Cependant, je n'étais pas oisive. J'ai exercé plusieurs métiers pour découvrir les différentes facettes du quotidien. D'ailleurs, c'est en travaillant au pop funèbre de M. Juvesco et fils que j'ai rencontré ma prune. Elle avait à peine 20 ans, tandis que moi je traînais 2 siècles derrière mon dos. Elle s'occupait avec entrain de l'organisation des funérailles. Quant à moi, je m'occupais 2 fois par semaine de la comptabilité de l'entreprise. Prune était une fille banale, dotée de bol front et d'une bouche pincée. Elle riait niaiseusement et me semblait être une sept-nous-touche. Tout ce que je détestais. D'ailleurs, je lui disais à peine bonjour. Mais un jour, M. Juvesco m'annonça que Prune était souffrante.
Apparemment, cet imbécile avait eu la mauvaise idée de s'allonger dans un cercueil pour y faire la sieste. Cela ne posait pas de problème au défunt si on s'allongeait la tête vers le nord. Mais Prune avait fait le contraire. À force d'écouter les évangiles du prêtre, elle n'avait pas acquis ce genre de savoir. Le soir même, les défunts étaient venus ronger ses orteils de pied. Depuis, des terribles plaies suintantes pourrissaient ses jambes. Il fallait faire vite pour éviter une amputation. Connaissant son petit secret, M. Juvesco avait sollicité mon savoir. Je ne pouvais pas lui dire non, car il m'avait toujours bien traité, comme si j'étais sa fille, malgré mon passé tumultueux. Jamais un regard déplacé sur ma personne, non, jamais. Cet homme me respectait. Ce fut donc avec patience que j'ai baigné les pieds pourris de Prune dans une infusion de glycérigel et de pompon soldat. Puis je les ai massés matin, midi et soir avec du beurre de mangue mélangé à 3 gouttes de son sang menstruel. Pendant que je la soignais, je découvrais vraiment Prune Kenneth, une jeune femme rieuse de la vie. Une femme qui avait pu sonder les profondeurs de mon âme en quelques jours. Pour la première fois de ma vie, j'avais raconté à quelqu'un ma mésaventure sous le quenétier ainsi que les conséquences. Nous en avions été bouleversés. Après son rétablissement, Prune me soigna avec amour et tendresse. Avec ses petits doigts délicats, elle massait ma langette en la badigeonnant d'huile de coco. Je pouvais en pleurer de plaisir. Une folie suave qu'elle léchait et tapotait avec sa langue. Elle me mangeait littéralement. Notre amour à l'abri des regards nous consuma pendant près de 3 belles années. Mais un jour, la faim me tirailla. Ma gorge réclamait cette fois-ci le sang des toxicomanes. Ne voulant pas que ma Prune assiste à ma transformation sanguinaire, j'ai quitté la Martinique sans même un au revoir. Je me suis installée sous l'île de la Barbade en quête de proie. Pendant mon absence, Prune plongea dans un gros poêle tout comme moi. Mais au lieu de sombrer dans la mélancolie comme elle, je nageais dans des bains de sang. C'est cela qui m'a maintenue à flot. Le temps passa et cicatrisa les blessures que je lui avais infligées. Prune se maria avec Gaston, le meilleur ami de son cousin. Au bout d'un an d'union, elle lui bailla une paire de jumeaux, Francis et Pierre-Yves. Quant à moi, je parcourais les îles de la Caraïbe en quête du sang des puceaux. Je pouvais en croquer 3 par nuit. Lors d'une nuit sans étoiles, j'y suçais avidement le sang de Ricardo. Il était adossé sous un grillage, tandis que je lui mordais l'entrecuisse. Quelques minutes après, à mon plus grand étonnement, ma faim se dissipa. Quel soulagement! La soif ne fendait plus ma gorge. Ricardo m'avoua qu'il était un des nombreux bâtards du bon Dieu que ce dernier avait eu avec une prostituée. Son sang avait le pouvoir de calmer ma soif pendant quelques années. Cette nuit-là, au lieu de le dévorer, je lui ai fait la plus belle suce de sa vie en remerciement. Sans plus attendre, j'ai bravé les dangers de la mer pour retrouver ma Prune. Foutre qu'elle m'avait manqué. Malgré son âge avancé, je lui ai demandé de me pardonner et de m'épouser. À mon plus grand soulagement, elle accepta. Mon amour m'espérait également. Nos 8 années de mariage furent les plus belles années de ma vie. J'ai changé ses couches sans jamais détourner le regard. J'ai léché son dentier sans jamais ressentir du dégoût. Non, j'aimais profondément Prune Kenneth. Henri le vieil homme fut ému par l'histoire de la diablesse. Il pouvait mourir en paix en sachant qu'il avait assisté à l'amour véritable. Comme je te l'ai raconté, Henri, je fus repu pendant quelques années. Maintenant, je me délecte du sang de ceux qui ont des troubles psychiatriques. Le vieil homme sourit en disant « Ma chère Péloponnèse, fais ce que tu as à faire. Tu as ma bénédiction. » « Je t'en remercie, Henri, mais avant, laisse-moi t'offrir la jouissance de toute une vie. » Tel un cheval 3 pattes, Henri invita la diablesse dans sa demeure. Entre 2 hennissements, il mourut de bonheur en jouissant de la cocoune de la diablesse. Puis, comme convenu, elle le dévora avec appétit.